Bonsoir. La situation sécuritaire reste très volatile dans le nord et sud Kivu. Le processus de paix de Doha est presque au point mort et une méfiance croissante s'installe entre les forces armées de la RDC, FRDC et l'AFC M23. Malgré la déclaration des principes signée le 19 juillet à Doha, les deux parties se renvoient la responsabilité des violations du cessez-le-feu et des provocations sur le terrain. Cette impasse diplomatique fragilise les espoirs de paix dans l'Est de la RDC. Quelle est la surface de cette situation? Nous en parlons avec Rigen Miviri, l'avocat et chercheur à Boutéli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. J'ai qu'au sigle. Rigen Miviri, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Moïla Chiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir madame, mais je vous entends très mal, je m'excuse, je vous entends très mal.
Pourtant moi je vous entends très très bien, la connexion est plutôt, la ligne est plutôt claire de mon côté. On va essayer de vous rappeler, peut-être que ça va s'améliorer. Et avec moi dans ce studio, Henris Elisha Biamungu, spécialiste de la région des Grands Lacs. Il est directeur de l'Académie de la citoyenneté RDC et président du conseil d'administration de l'organisation Non-Violence Alerte Nova RDC. Joach Elisha Biamungu, bonsoir.
Bonsoir madame Tilly.
À Kisangani dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sous la 94.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la situation sécuritaire reste tendue au nord et sud Kivu. Alors que le processus de paix de Doha stagne, la méfiance grandit entre l'armée congolaise et la rébellion de l'AFC M23. Le gouvernement et la rébellion qui avaient pourtant signé une déclaration des principes sous médiation qatari le 19 juillet à Doha au Qatar s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu et des provocations. Une impasse diplomatique qui met à l'épreuve les espoirs des paix dans l'est du pays. Papi Martial Moukeba.
La déclaration des principes signée entre les gouvernements et l'AFC M23 prévoyait l'ouverture officielle des négociations le 8 août en vue d'aboutir à un accord de paix global le 17 août. Mais cette étape n'a toujours pas débuté, laissant planer un blocage où tractations politiques et tensions armées semblent s'opposer. Sur les terrains, au nord comme au sud Kivu, les affrontements sporadiques et les mouvements des troupes de l'AFC M23 se poursuivent, alimentant un climat de méfiance. Chaque camp accuse l'autre de violer les engagements pris à Doha et de compromettre la mise en œuvre du cessez-le-feu. Dans un communiqué publié ce mardi, les FRDC accusent l'AFC M23 de multiplier les attaques contre leur position dans les deux provinces, qualifiant cette attitude de belliciste. L'armée affirme que ces offensives quasi quotidiennes s'accompagnent des massacres ciblés des civils, notamment au nord Kivu. Elle dit même se réserver les droits de répondre à ce qu'elle considère comme des provocations et violations répétées des accords. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Martial Moukeba pour tous ces détails. Hein. Alors, Rigel Miviri, je rappelle que vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. La situation sécuritaire au nord et sud Kivu reste tendue malgré la signature de la déclaration des principes à Doha entre l'armée, le gouvernement congolais et l'AFC M23. Les deux parties se renvoient la responsabilité des violations du cessez-le-feu, des provocations sur le terrain. Comment vous analysez cette situation? Rigel Miviri, vous êtes en ligne? Rigel Miviri, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a un petit souci, on a des soucis de connexion avec Rigen Miviri. Est-ce que vous m'entendez, Rigen Miviri? en attendant qu'ils puissent nous rejoindre. Alors, on va donner la parole avec à Joash Elisha Biamungu qui est avec nous dans ce studio. Lui, il est spécialiste de la région des Grands Lacs, président du conseil d'administration de l'organisation Non-Violence Alerte Nova RDC, mais aussi directeur de l'Académie de la citoyenneté-RDC. Alors, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup pour la parole, Madame Kelly. Je voudrais commencer en adressant une salutation fraternelle et profondément respectueuse à nos sœurs et frères qui vivent encore dans les zones occupées par les groupes armés, notamment M23 AFC. Et nous savons tous que là-bas, chaque jour est une lutte. Vivent dans une zone où la monnaie ne circule pas normalement et sous la peur de la violence. Je voulais juste dire à nos compatriotes qu'ils ne sont pas oubliés et que la République vous porte dans sa mémoire et dans son cœur. En tant que spécialiste de la région des Grands Lacs et directeur de l'Académie de la citoyenneté, je voudrais replacer notre échange dans un contexte qui est clair. Un cessez-le-feu est un engagement mutuel signé non pas pour les armes, mais pour les vies humaines. Or, quand les principes sont violés, ce ne sont pas seulement le papier ou les accords qui sont mis en jeu, mais par contre les vies humaines. Et par violation de principes de cessez-le-feu, des conséquences sévères très très claires, notamment la perte de crédibilité. Les engagements pris le 19 juillet à travers les déclarations des principes deviennent ainsi fragiles. Mais aussi, il y aura les durcissements de position. Chaque violation est utilisée par l'autre partie pour justifier ses propres manquements. Mais aussi, il y aura l'éloignement de l'accord final. La date butoir du 17 août risque de passer sans résultat. Et les communautés locales paieront le prix de cet échec.
Alors, vous parlez de la date du 17 août. On veut comprendre. Ça représente quoi?
Je crois bien que c'est les 17, les 18. C'est les 18 qui représenteraient normalement la signature de résultat final.
Résultat final?
Oui, parce que normalement, après la déclaration des principes, en août, normalement, on devait avoir. Les 18 août, on devait normalement avoir la suite de la signature des déclarations des principes. Et ainsi, lorsque les parties prenantes commencent déjà à violer les principes de cessez-le-feu, ça fragilise la suite du processus de la paix.
Alors, on me signale que Rigel Miviri en ligne. Vous êtes là, Rigel Miviri?
Oui, madame.
Alors, je disais tout à l'heure, avant qu'on ait ce problème de connexion, que la situation sécuritaire reste tendue dans le nord et sud de Kivu. Le processus de paix est presque au point mort. Une méfiance s'installe entre les forces armées de la RDC et la FCM-23, les deux parties qui s'accusent des violations des cessez-le-feu, des provocations sur le terrain. Quelle est votre lecture de la situation?
C'est clair, en fait, qu'il y a violation du cessez-le-feu. On peut bien se poser la question qui a commencé. Mais bon, c'est peut-être c'est plus pertinent en ce moment. Mais c'est juste important de dire que aucune partie ne respecte le cessez-le-feu, au moins depuis il y a une semaine. Et ça dit beaucoup parce que c'est après que le rendez-vous qui était initialement fixé au 8 août n'est pas lieu. Donc, et on voit de plus en plus qu'on va vers l'escalade. Et ça, c'est dommage parce que ça a été un peu prévu, j'ai comme l'impression.
Entre les lignes, Rigel Miviri, on a du mal à vous suivre. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Ou encore, je ne sais pas si vous avez activé le mode main libre, parce que votre retour n'est pas très très agréable.
Hein.
Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on l'a perdu. On va essayer de le rappeler. Professeur Mwaila Chiembe, est-ce que vous êtes en ligne? Professeur Mwaila Chiembe, non plus. Il est en ligne. Professeur Mwaila, vous êtes en ligne?
Excusez-moi auprès de vos auditeurs. Je ne vous entends pratiquement pas.
Est-ce que vous m'entendez là, professeur?
Oui, s'il vous plaît.
Vous m'entendez, professeur? Vous êtes en direct. Est-ce que vous m'entendez?
Ben, il y a une vibration qui m'empêche vraiment de vous entendre. J'entends une voix un peu, comment dire,
alors, on va essayer...
infléchie et je m'excuse auprès de vos auditeurs de ne pas les ennuyer.
On va vous rappeler hein, sur un autre numéro. Professeur Maïla.
Oui, peut-être le numéro direct que Guy possède pour vérifier si ça marche.
On va appeler sur le numéro direct, professeur Maïla, d'accord. La réalisation, on va le faire. Est-ce que Miviri est en ligne?
Je ne sais pas si vous m'écoutez, mais moi je vous écoute très bien.
Maintenant c'est clair, allez-y.
Oui, alors je disais que il y a eu un choix en fait de faire l'escalade et de ne pas poursuivre les discussions de Doha, je comme l'impression. Et on a vu des communications du M23 qui semblait préparer l'opinion à ce choix-là. Encore une fois, les discussions sur aller vers Kinshasa. On a vu de mouvements de troupes de Goma, Bukavu vers les zones plutôt rurales, et c'est comme ça qu'on a entendu le déclenchement d'une offensive vers Shabunda. Et dans le mot de certains acteurs du M23, on a comme l'impression qu'on recommence une offensive Shabunda vers Kindu. Donc ça va vraiment à contre-sens du processus de paix et de ce qui semblait faire des avancées de l'accord de principe qu'on a entendu.
Alors, Rigel...
Donc voilà.
Alors, d'après vos analyses, hein, et en regardant, en suivant la réalité sur les terrains, au vu de tout ce qui se passe sur les terrains, Rigel Miviri, qui est le plus responsable des violations du cessez-le-feu?
Bon, si on fait une séquence, on dira que il y a jamais eu en fait cessation des hostilités entre deux principaux acteurs. Et ça, c'est le M23 AFC et le Wazalendo. Il y a toujours eu des affrontements, que ce soit à Masisi, à Rutshuru et depuis quelques temps dans le sud Kivu, entre l'AFC et le M23. Le dernier à rejoindre encore les offensives, c'est le FRDC, et ça, c'est depuis cette semaine. Donc, vous pouvez faire votre conclusion sur base de ce que je vous dis, mais voilà, c'est ce qu'on a vu sur le terrain.
Je l'ai dit dans mon introduction, le processus de paix de Doha est presque au point mort. Il y a eu, malgré la signature de la déclaration des principes signée le 19 juillet à Doha, les deux parties se renvoient la responsabilité des violations de cessez-le-feu, des provocations sur le terrain. La question qu'on peut se poser, est-ce que cette signature était sincère entre les deux parties?
Bon, ça serait difficile de juger de la sincérité, mais au moins on savait que ça va être des discussions difficiles. Donc, on a vu qu'il y a déjà des préalables et on parlait d'échange de prisonniers. Et parmi les éléments que le M23 met en avant, et c'est de dire que voilà, il n'y a pas eu encore des rations de ce qu'ils appellent prisonniers et qui sont sur une liste d'au moins 700 personnes environ. et qui n'ont pas encore été libérés. Et c'est pour cela qu'ils pensent que ce préalable-là n'a pas été respecté. Donc, c'est un blocage dans le processus. Et en même temps, on voit qu'il y a le gouvernement qui parlait aussi du respect du cessez-le-feu et à juste titre, pendant qu'on devait poursuivre les discussions, il y avait encore d'affrontements qui se passaient et il y a beaucoup de villages qui sont encore tombés dans le contrôle du M23. Donc je pense que sincérité, peut-être pas, mais aussi juste des réalités du terrain qui font que je ne suis pas sûr qu'il y a une vraie concomitance entre ce qui se discute à Doha et ce que font les acteurs sur le terrain.
Professeur Moïla Tchimbe, vous êtes en ligne?
Oui, ça va, je pense que vous m'entendez.
Oui, professeur, est-ce que vous m'entendez aussi?
Oui, je vous entends bien, fort bien, madame, merci.
Alors, la situation sécuritaire reste tendue au nord et sud Kivu. Les processus de paix de Doha stagnent. Une méfiance s'installe entre les FARDC et l'AFC M23 malgré la déclaration des principes signée le 19 juillet à Doha. Les deux parties se renvoient la responsabilité de violation du cessez-le-feu, des provocations sur les terrains. Professeur, peut-on parler déjà d'échec de Doha à ce stade?
Non, madame, c'est prématuré de parler d'échec. Il est vrai, lorsqu'on regarde l'histoire diplomatique des négociations de paix, chaque fois qu'on s'approche de la paix au sens de conclure les négociations, il y a toujours les parties qui essaient de montrer les muscles. Chacun voudra se présenter le jour J avec plus de biens, soit territoriaux, soit moraux, pour faire prévaloir ses intérêts. C'est justement ce à quoi nous assistons maintenant. Mais moi, je pense que la priorité, madame, ce n'est pas en soi l'accord de Doha ou le protocole qui a été signé en attendant qu'il soit conclu véritablement. La partie la plus importante, c'est l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Parce que si cet accord qui vient d'être accepté par le gouvernement du Rwanda, c'est-à-dire ratifié. Et si demain le gouvernement congolais faisait de même, on créerait les conditions, à mon avis les meilleures, pour le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Ce qui participerait pour la première fois, non seulement au retrait, si ce retrait a lieu, le Congo pourrait recouvrer son territoire aujourd'hui occupé, et à ce moment-là, le roi serait nu, on verrait quelles seraient les capacités réelles de déploiement ou les capacités de faire du M23 et ses alliés si réellement les volontés de paix qui ont été exprimées à Doha vont se concrétiser. Parce qu'à ce moment-là, on pourra dissocier véritablement le projet rwandais du projet congolais du M23 et ses alliés. Et c'est probablement ce jour-là que l'on saura qui avait voulu faire quoi au Congo et qui veut la paix. Parce qu'en réalité, c'est là que réside le problème. Dans la mesure où le gouvernement rwandais a toujours dit, répété, que l'FDLR, c'est un point de friction, alors maintenant qu'il est engagé, qu'il est décidé que ces derniers rentrent dans leur pays, neutralisation au sens du principe de l'accord. Alors, s'ils rentraient dans leur pays, le Rwanda n'aurait aucune prétention à faire valoir pour rester en République démocratique du Congo. Donc, le monde entier, à commencer par les Congolais, verrait les forces rwandaises quitter le territoire national, ce qui serait le premier pas véritablement vers la paix. Il resterait naturellement le pan de M23 et le gouvernement de la République. On peut continuer à discuter, même si aujourd'hui on a la sensation que les choses ne marchent pas bien, mais les négociations de paix, madame, n'ont jamais été un chemin tranquille. Il y a toujours, à la dernière minute, les gens qui s'effarouchent et qui reprennent les armes ou qui montent des attentats, juste soit pour dire leur mécontentement. Mais pour l'instant, on ne peut pas conclure que le processus de Doha est mort. C'est vrai, il ploie sur les violences de part et d'autre, mais il n'a pas encore rompu.
Alors, en ce temps, professeur, l'AFCM 23 qui est en discussion avec le gouvernement à Doha se dit ne pas être concerné par l'accord de Washington. Comment pensez-vous que si au niveau de la RDC on arrive à ratifier ces accords ou cet accord de Washington, ça aurait une influence ou une répercussion sur ce qui se passe au Qatar, à Doha?
Je pense personnellement que si le Rwanda tient parole, retire ses forces, il faut voir qui est le médiateur. Hein. Les États-Unis, avec le président Trump, ce n'est pas la diplomatie tranquille. Il peut prendre les sanctions, il peut même faire usage de la force. Donc par conséquent, les acteurs de Doha, comme les acteurs de Kinshasa, le gouvernement, comme les acteurs de Kigali, savent à quel sens est voué avec le président Trump. S'il sent qu'il a été floué et que sa volonté d'avoir le prix Nobel de la paix est contrariée, il peut prendre les risques. Et à ce moment-là, le diable pourrait sortir du paquet et les choses peuvent être terribles. Donc, par conséquent, je pense que pour l'instant, on ne peut conclure dans un sens ou dans un autre. Si le Rwanda, qui vient de ratifier l'accord, si la République démocratique du Congo ratifie, si les deux pays, dans les jours qui viennent, devant le président Trump, signent l'accord final, et que le lendemain, le retrait du Rwanda s'est engagé, je pense que le M23, d'abord on verra quelles sont les vraies forces du M23 et ses alliés qui resteraient dans le pays, et leur volonté de paix, parce qu'ils prétendent qu'ils sont congolais, et qu'étant congolais, ils ont vu couler le sang de leurs propres frères. Par conséquent, si vraiment ils tiennent à la paix et à la dignité des Congolais, ils ne peuvent pas se payer le luxe, le Rwanda retiré, de tuer encore les Congolais gratuitement parce qu'ils prétendent avoir des intérêts légitimes, des droits légitimes. Alors, le gouvernement dit « chiche, je vous tends la main, allons discuter ». Il est tout à fait normal que ça chope sur tel ou tel point, tel ou tel droit, mais la volonté pour les gens qui se, je pense qu'ils ont raison de se considérer comme Congolais. Mais c'est le sort de leur pays, c'est le sort de leurs compatriotes qui est en jeu. Si le Rwanda se retirait, ils ne pourraient pas prendre le risque de détruire encore une partie du pays où ils sont nés, où ils vivent, où ils ont des parents. Mais ce serait quelque chose de suicidaire à la longue. Parce que qu'est-ce qui serait l'avenir si le M23 prenait un tel chemin avec ses alliés? C'est détruire le pays où ils sont nés, la plupart de ceux qui sont combattants, que ce soit une partie des Banyamulenge qui les ont suivis, ou les autres, c'est ça les Congolais. Ils vendiquent leur qualité de Congolais authentiques. Par conséquent, quels que soient les intérêts, quels que soient les droits, qui présument à tort ou à raison, non respectés par le gouvernement, ils ont l'obligation d'aller vers la paix, compte tenu des malheurs de leurs propres concitoyens. Il serait extravagant de ne pas sentir, comprendre. Ce n'est pas un problème du gouvernement. Le M23 et ses alliés sont congolais. Ils ne peuvent pas se payer le luxe, le Rwanda parti, de continuer à tuer leurs propres compatriotes. On ne sait pas pour quel intérêt, on ne sait pas pour quel droit. Non, je pense que raisonnablement, ils comprendront que dans l'intérêt supérieur de leur pays et de leurs intérêts, ils doivent négocier avec le gouvernement parce que, in fine, le gouvernement a fini par prendre la part de la sagesse pour tendre la main et discuter avec eux.
Merci, professeur Joas Elisha Biamungu. Dans un communiqué publié mardi, les FARDC accusent l'FCM23 de multiplier les attaques contre leur position dans les deux provinces, c'est-à-dire Nord et Sud Kivu. Qualifiant cette attitude de belliciste, l'armée affirme que ces offensives quasi quotidienne s'accompagne des massacres ciblés des civils, notamment au Nord Kivu. Elle dit même se réserver le droit de répondre à ces provocations et violations répétées des accords. Y a-t-il risque d'escalade?
Ouais, exactement. Je peux dire qu'il y a risque d'escalade de cette situation parce que nous sommes encore entrés des rentrées en arrière. Et ça semble, les processus semblent ne pas évoluer. Et exactement, je commence par présenter aussi cette désolation, parce qu'aujourd'hui, nous discutons encore du cessez-le-feu, alors que au niveau de Bunagana, c'était encore violation de cessez-le-feu. Sake, Rutshuru, cessez-le-feu, jusqu'à la chute de la ville de Goma et la ville de Bukavu, toujours cessez-le-feu. Je pense que notre gouvernement pourrait encore bien nouer les manches et réfléchir autrement par rapport à la situation apportée à la crise, surtout que ça prend du temps et le peuple qui est en train de vivre sous la rébellion est en train de subir les conséquences. Je crois que le gouvernement devrait encore réfléchir autrement.
C'est-à-dire quoi réfléchir autrement? Est-ce qu'il faut quitter Goa et utiliser la force pour que la paix revienne dans ces territoires occupés aujourd'hui par la FCM23?
Je pense que la signature d'abord de déclaration des principes, c'était un pas. Et malheureusement, ce n'est pas que les gouvernements ne savaient pas qu'on allait toujours, on allait rentrer dans les cycles de cesser le fait, violation de ceci ou de cela. Je pense que le gouvernement est bien informé. Ce que je pourrais peut-être reprocher du gouvernement, c'est la montre. Il semblerait que notre gouvernement est beaucoup plus en train de jouer avec la montre. Ce n'est pas que la solution à la crise n'existe pas. La solution à la crise existe. La responsabilité est partagée de part et d'autre, mais beaucoup plus pour notre gouvernement, c'est la montre. Je l'ai dit parce que moi-même, je suis de Goma, je suis de Bukavu. Je sais ce que nous sommes en train de subir. Nous attendons beaucoup de notre gouvernement. Je pense que ce serait mieux que notre gouvernement nous propose des solutions urgentes et plus nécessaires.
Mais est-ce que vous avez des propositions à faire au gouvernement, des propositions urgentes pour mettre fin à tous ces massacres qui se déroulent dans ces provinces pour que la paix revienne finalement et que la population puisse vivre paisiblement?
Ce que nous pouvons proposer à notre gouvernement, ce n'est pas seulement notre gouvernement, mais c'est des parts et d'autres. Après la signature de déclaration des principes, ça serait mieux que vous puissiez mettre votre adversaire en confiance. Je crois qu'il y a eu des exigences des parts et d'autres. Si jamais chaque partie prenante respectait la déclaration des principes, je pense que nous pouvons. On allait évoluer dans cette crise. Mais aussi, je pense que la gestion de cette affaire ne devait pas se passer dans les tâtonnements. Essayer ceci, essayer cela, et ça ne marche pas. Alors que c'est les vies humaines qui sont en jeu. Et je crois que, au niveau de notre pays, ce n'est pas un manager qui nous dirige, c'est un leader. Les managers réagissent, mais par contre, les leaders doivent agir.
Alors, on va écouter ces auditeurs qui sont nombreux à nous suivre à travers le pays. On va aller à Bukavu, au sud Kivu, pour écouter Ritier Zainda qui attend et qui veut donner aussi son avis sur le sujet de ce soir.
Ritier Zainda, je vous appelle depuis la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Nous avons constaté avec regret que les deux parties au conflit, dont le gouvernement de Kinshasa et l'AFCM23, avaient signé cette déclaration, pas selon leur volonté, mais par les forcing des États-Unis. Alors, de tout ce qui se passe, est-ce que les deux parties savent que c'est la population qui est perdante? Car la famine, mort d'homme, abandon scolaire et autres choses sont devenues une manière de vivre de la population. Chaque parti se cache derrière la population, mais la faiblesse ne serait pas du gouvernement congolais, car on leur avait donné mandat pour assurer correctement les missions régaliennes de l'État ou pas.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Héritier Zainda qui pense que les deux parties avaient signé la déclaration des principes, non pas par leur volonté, mais par le forcing des États-Unis?
Je ne pense pas que cela soit par le forcing des États-Unis. Je crois que notre gouvernement, au départ, refusait de dialoguer avec, avec les groupes armés qui qualifiaient de patins et qui sais-je encore. Mais aujourd'hui, si jamais le gouvernement a encore tenté de dialoguer, c'est parce que le gouvernement a vraiment l'urgence de trouver la solution à la crise. Et que si jamais on pouvait faire intervenir les États-Unis, c'est pas parce que nous sommes le gouvernement est forcé, non. C'est en quête de la solution à la crise. Par contre, mon compatriote a vraiment raison, parce que c'est le peuple, c'est la population, c'est les vies humaines qui sont vraiment en jeu et que la solution devait vraiment être urgente à cette situation.
Alors, certaines personnes pensent que la solution serait plutôt au niveau interne par le dialogue, qu'il ne faut rien attendre ni de Doha ni de Washington. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que les confessions religieuses ont essayé de proposer aussi de dialoguer avec toutes les parties prenantes à la crise, et c'était une approche aussi louable, soutenue même par notre groupe de l'Académie de la citoyenneté. Normalement, on devait suivre ce que les confessions religieuses nous ont proposé. De toutes les façons, c'est les dialogues. Et que si jamais notre gouvernement a accepté les dialogues, pourquoi pas ne pas aller sous cette voie des confessions religieuses. C'était très très direct, qui dépassait par des contours. C'est pour cette raison que nos analyses montrent que notre gouvernement congolais jouerait beaucoup plus avec la montre. Bien sûr, parce que tout ce qu'on est en train de nous proposer, ça sauve un peu le pouvoir et non la République, malheureusement.
Après Bukavu, on va aller à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne.
C'est Christian Kabila Kankonde, depuis Kabinda. Nous l'avions dit et continuons à le dire que la paix à l'est de notre pays ne proviendrait d'un quelconque dialogue ou de la négociation avec les agresseurs. Mais cette paix reviendra par la détermination de nos éléments de FARDC. À cet effet, le gouvernement congolais doit nécessairement équiper nos militaires, soutenus par les Wazalendo, en armes et en munitions. Leur réserver un traitement harmonieux en les rémunérant normalement, espérer au discours et accords secrets qui ne produisent rien, laisse les pays dans une situation chaotique.
Rigal Miveri.
Je pense là qu'on est en train de revenir sur des propositions qui ont été données il y a de cela 2 ans, voire 3 ans. Et malheureusement, ça n'a pas été fait, et c'est pour ça qu'on est là où on est, avec tous les morts, avec des pans entiers du territoire qui sont contrôlés par le M23. Donc, je pense qu'on continue vraiment à faire des discours et à dire encore que voilà, dialogue, et à dépolitiser aussi la question, en fait, du M23. J'ai entendu ici, on dit que si on signe avec le Rwanda, ça sera tout. Si on signe avec les États-Unis, ça sera tout. Non, je pense que c'est mal comprendre le problème. Je pense que les M23, l'AFC, ils ont de plus en plus leur propre agence. Ils ont de plus en plus leur propre existence, et ne pas le reconnaître, c'est juste manquer de lucidité politique, je pense, parce que aujourd'hui le Rwanda, il va juste se dédouaner, il va dire que je ne suis plus là, j'ai signé avec vous, mais voilà, ceux qui sont encore là, c'est le M23. Et donc on a signé le retrait de forces du Rwanda, qu'on a conditionné par la neutralisation de FDLR. Et cette neutralisation de FDLR, on l'a donnée comme responsabilité au gouvernement congolais, ce qui n'est pas logique, étant donné qu'aujourd'hui, on a avancé sur la situation qu'on avait à décembre 2024 lorsque les CONOPS avaient été mises en place. Aujourd'hui, la plupart de ces menaces FDLR dont on parle sont dans des zones occupées par le M23. Et donc, comment vous expliquez que les FARDC vont neutraliser les FDLR qui sont loin de leur portée déjà? Donc, tout ça, ce sont des pièges dans lesquels on est tombé en faisant les négociations et on espère les corriger avec Doha. Pourtant, Doha, c'est plus compliqué. Et donc, il faut reconnaître que Doha piétine parce qu'il y a des vraies différences de point de vue. Il y a de vrais points de blocage à Doha. Et donc, si on a eu ce fameux accord de principe, en fait, en réalité, c'est pour dire qu'on n'a pas d'accord. L'accord de principe, c'est un désaccord en soi. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'accorder sur le fond. Alors, on essaie juste de créer de grands principes sur lesquels on espère être d'accord. Mais dans la pratique, on voit directement qu'on n'est pas d'accord. Et le premier principe, c'était le cessez-le-feu. Et on a vu que on n'était pas tout simplement pas d'accord sur même le cessez-le-feu. Donc, il faut reconnaître tout simplement que la situation du dialogue de Doha est très difficile et que il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique de part et d'autre pour avancer. Sinon, que les gens disent clairement que il n'est pas possible d'avoir un accord là-bas et qu'on voit sur d'autres chemins. J'ai entendu ici dire aussi que non, il y a un garant, les États-Unis, qui pourrait intervenir militairement. Les États-Unis l'ont dit plusieurs fois. Il n'y aura pas de militaires américains ici sur le territoire congolais pour venir combattre. Ça n'aura jamais lieu. Et donc, le croire, c'est laisser nos populations dans des attentes qui n'arriveront jamais. Donc, je pense qu'il faut, il faut revoir notre compréhension de ce conflit et le prendre au sérieux tel qu'il est. Et de ne pas toujours essayer de les repousser plus loin. La question, par exemple, de préparer l'armée sur l'éventualité de la reprise de l'escalade, on y est déjà. L'escalade est là déjà. Mais est-ce que le temps le temps mort entre guillemets ou les cessez-le-feu que les FARDC, en tout cas dans une certaine mesure, a pu respecter, a servi à se préparer à l'éventualité d'une reprise des hostilités? C'est aux militaires de nous le dire. Mais si on regarde le terrain, les derniers jours ici, on voit qu'il y a encore le même fissure qu'on a vu lors de la prise des différentes zones dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. Donc voilà, on a comme l'impression que sur ce plan-là, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, autant qu'il n'y a pas eu d'avancées sur le plan de Doha. En même temps, il n'y a non plus d'avancées sur la question de la cohésion nationale et de cette proposition de religieux sur un dialogue national. Donc voilà, on est encore sur le point de départ. On a fait beaucoup de bruit sur l'accord de Washington, mais en fait, on a du mal à voir le dividende de cet accord-là. Et le test pour moi, c'était Doha, parce que dialoguer avec un État souverain, entre États souverains, le Rwanda et le Congo, c'est quelque chose de très facile. Mais dialoguer avec un groupe armé dont vous refusez même la légitimité, c'est plus compliqué. Et accepter des choses que demande un groupe armé, c'est très compliqué. Donc, on devait être préparé à des blocages d'un moment à l'autre. Mais bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore l'échec. C'est possible encore de revoir des choses. C'est possible encore de trouver peut-être quelques points d'accord, mais ça prendra du temps et que peut-être que les gens devraient juste reconnaître que ça va prendre plus de temps que...
Merci, Miguel Mibiri, on va vous donner la parole pour votre conclusion. Jidel Michabou qui nous suit depuis le Kasaï oriental. Pour lui, la seule voie serait la guerre contre le M23, car le gouvernement sait bien que le M23 et le Rwanda ne peuvent pas facilement quitter ces territoires occupés. Ce n'est pas aux États-Unis d'imposer la paix plus que le gouvernement congolais qui devrait l'imposer par la voie des armes. Le gouvernement, par la voie des armes. C'est la réaction de Maître Trésor Michabou depuis le Kasaï oriental Oshamwamba, qui nous suit depuis Kolwezi. À mon avis, le dialogue reste le seul moyen pour accéder à la paix dans notre pays, parce que notre gouvernement a montré sa volonté d'imposer la paix, mais malheureusement, ça ne marche pas. Vini Aziza Chikwa et au Kasaï central, signer les accords ne signifie pas faire confiance à l'ennemi. Nos autorités doivent être vigilantes tout en renforçant le dispositif sécuritaire. On va prendre ce dernier auditeur, ce dernier auditeur très rapidement qui nous appelle, qui est à Kinshasa.
Ici Elvis Sack depuis la ville de Kinshasa. La persistance de l'instabilité sécuritaire au Nord Kivu, Sud Kivu, résulte principalement du non-respect des engagements contenus dans la déclaration des principes signée à Doha le 19 juillet dernier. Ce texte devait servir de cadre vers un accord de paix durable, mais l'échange récurrent d'accusations entre le FARDC et l'AFC M23 sur les violations du cessez-le-feu traduit un blocage préoccupant et inquiétant par rapport aux espoirs que l'accord de paix de Washington avait suscité. Cette situation semble s'inscrire dans une stratégie de l'AFC M23 visant à retarder, voire à compromettre le processus de Doha, profitant des ressources économiques des zones qu'elle contrôle. Face à cette impasse, la RDC gagnerait à solliciter plus activement l'influence de ses partenaires, là on voit les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, afin de pousser le Rwanda à user de son poids pour ramener l'AFC M23 à faire preuve de bonne foi. Dans le même temps, le gouvernement congolais doit honorer ses engagements issus des négociations, non par faiblesse, mais pour privilégier la paix, la stabilité et la sécurité des populations qui, depuis longtemps, vivent dans la souffrance et l'insécurité et qui n'aspirent qu'à vivre en paix.
Professeur Moïla, brève réaction. Professeur Maïla, est-ce que vous êtes en ligne? Je pense qu'on a perdu le professeur Maïla. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Hein. Je vais vous donner la parole. Je vois Elisha Biamungu. Vous avez suivi cet auditeur qui demande au gouvernement de respecter ses engagements issus des négociations, non pas par faiblesse, mais pour privilégier la paix.
Oui, exactement. Si le dialogue a été une approche prônée par notre gouvernement, je pense que le respect des principes serait vraiment primordial. Parce qu'on aurait dialogué avec les M23 dès la chute de Bounagana. Et quand des grandes villes sont déjà rangées, je crois que ça serait déjà prioritaire et trouver une solution urgente à la crise. Et cette violation de ces effets envoie un message très clair à la population que les paroles n'ont pas vraiment de la valeur. Quand des parties prenantes, des parts et d'autres, ne savent pas respecter leurs paroles, c'est que vous dites à la population que la parole n'a pas de la valeur. Je crois que les deux parties prenantes doivent vraiment s'attendre sur cette question afin de trouver la solution à la crise.
Donc il faut retourner à Doha et puis y mettre de la volonté pour que les choses avancent.
Ouais, je pense bien, tellement que nous sommes sur les dialogues, quand bien même c'est contesté par la société civile, parce que la société civile n'a jamais accepté cette question.
La société civile est plurielle, vous parlez des quand
je parle de civile. Moi je viens du Nord Kivu. Mm-hmm. Si on consultait les groupes de les composants de la société civile au Nord Kivu, au Sud Kivu, au départ personne n'a soutenu les dialogues, mais nous sommes sur un point accompli. Les deux villes sont déjà rangées. Notre gouvernement a déjà accepté les dialogues. Nous n'avons pas reculé. Ok, emboîtons les pas du dialogue et trouvons la solution à la crise.
La solution militaire, selon certains auditeurs que nous avons, selon les réactions de certains internautes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait aider à mettre fin à cette crise?
Je pense que prendre la solution militaire à ces niveaux, ce n'est pas vraiment nécessaire. La solution militaire serait importante depuis, elle a déjà été évaluée, c'est depuis Bounagana, Sake, et voilà des villes qui sont déjà en jeu. Je crois que ce qui est sur la table pour l'instant, c'est les dialogues. Ce n'est pas que notre pays est faible en acceptant les dialogues, non. Ne sommes pas de dire que le gouvernement est faible, non. Mais par contre, à ces moments, vu les enjeux, les dialogues est sur la table, alors trouvons la solution moyennant les dialogues.
Merci, Monsieur Elisha Biamungu, Joas Henris. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la région des Grands Lacs, directeur de l'Académie de la citoyenneté-RDC, président du conseil d'administration de l'organisation Non-Violence Alerte Nova RDC. Rigal Mibiri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches du groupe d'études sur le Congo, GEC, en sigle, quelle piste diplomatique alternative a selon vous, pourrait être exploré pour sortir de cette impasse?
Je pense qu'il faut rajouter à ce qui existe déjà à la dynamique régionale. Donc, je pense qu'il y a des acteurs régionaux qui se sentent marginalisés dans cette discussion et malheureusement, ils deviennent des spoliants. Ils n'aident pas à ce que ce processus avance. Donc peut-être que ça, c'est aussi quelque chose à envisager. Et j'espère que la nouvelle équipe à l'intégration régionale et différents acteurs qui ont été mobilisés dans ce gouvernement vont faire ce travail-là. Mais en même temps, je pense qu'il faut dire clairement à la population qu'il y aura un prix à ces négociations. Il ne faut pas faire miroiter aux gens qu'on va recouvrer l'intégrité territoriale sans un prix. Et ça, c'est important à dire à la population et c'est important aussi de tirer les leçons et de se préparer pour l'avenir. Parce que il faut dire la vérité, ce que l'État congolais négocie parce qu'il n'a pas pu arriver à la paix par d'autres moyens, qui serait notamment la défense de l'intégrité territoriale par l'armée qui est... voilà. Donc, ça, c'est important à dire et de dire que c'est quelque chose qui n'est plus être, se reproduire. Et pour ça, il faut vraiment construire une armée véritablement républicaine pour prévenir des situations pareilles où l'État sera obligé de négocier, même sans être... sans croire dans le dialogue humain.
Merci Rigen Miviri. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Enoch Kiatumbi, Jean-Claude Siala, Pierre Diassinois et Nelson Nyombe, à qui nous souhaitons d'ailleurs un bel anniversaire aujourd'hui, qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Restez branchés sur la fréquence de la PR et diffusion demain 4h tard, heure de Kinshasa.